Lesbienne à l'antenne.
Nous aussi, on a une histoire et cette histoire, elle est politique en fait.
Bah, ce qui dérange en général, c'est quand on ouvre sa gueule, qu'on ne reste pas à sa place.
Arriver à se dire lesbienne dans ce monde-là, c'est déjà révolutionnaire.
Voici les sorcières, femmes fortes et fières, brûlées sur les bûchers pour avoir voulu aimer.
Une émission par des lesbiennes
pour un monde féministe et décolonial.
Dans cette 22e émission des Lesbiennes à l'antenne, vous allez entendre parler d'émancipation individuelle et collective, de transmission d'une culture minorisée, d'une vie grandiose, du nuage gris qui plane au-dessus de nos têtes, de pratiques politiques de la parentalité, de pouvoir emmener son enfant en Algérie, de « we could just be you and me », de prendre la mesure de nos sentiments sur le pouvoir dans les réunions de famille, de se sentir tellement, tellement bien avec elle et de ce qu'on veut que l'amour ça ressemble.
On a la chance incroyable d'être aujourd'hui avec Rowena Rodriguez, qui en a rencontré à travers une amie commune. Spéciale dédicace à Ariane de la dernière Rubrique Love. Vous pouvez écouter l'épisode précédent si vous voulez. Tu travailles pour ACF sur les questions de genre, mais ce n'est pas vraiment pour ça qu'on est venu vers toi. C'était plutôt pour le travail de mémoire que tu as fait en 2021, je crois, dont le titre... incroyable en lui-même déjà, le devenir mère des lesbiennes, construction des subjectivités et rapport de pouvoir. Et du coup, on s'est dit que nous, ça nous intéresserait de pouvoir te poser des questions sur ce travail et comment ça en lien aussi avec ta vie, le moment où tu l'as fait et tout ça. Voilà.
Waouh, quel beau programme.
Du coup, pour commencer, est-ce que tu veux bien nous dire quelque chose de ta place sociale et un peu de ton cheminement politique, les moments de prise de conscience un peu ?
Alors, je suis une femme cisgenre, je suis blanche avec des origines espagnoles du côté de mon père, en deuxième génération, troisième même. Je suis une vraie bobo, vraiment. Je suis devenue comme ça, vraiment. Il n'y a pas d'autre mot pour me définir. Mais ceci dit, je viens d'un milieu ouvrier où je suis née à Aubervilliers. On habitait dans une grande cité. Alors, on n'était pas les plus pauvres de la cité. On faisait même partie de ceux qui s'en sortaient le mieux. Mais mon père, ouais, il était ouvrier. Ma mère, elle était assistante médicale. Donc voilà, pour le petit parcours, j'ai eu effectivement une ascension sociale qui fait que maintenant, j'habite dans un quartier hyper... où la gentrification urbaine, elle a bien fait sa place. Et puis, je me situe politiquement du côté gauche de l'hémicycle. Et donc, je suis mariée avec une femme et on a une petite fille de 6 ans qu'elle a portée.
Moi, je vais te poser une question sur le mémoire. Qu'est-ce qui t'a motivée à faire ce travail au début et qu'est-ce que t'as appris ou compris en le faisant ?
Alors, en fait, cette idée de mémoire et de maternité lesbienne, de sujet, de mère lesbienne, à travers, en fait, tous ces questionnements théoriques queer, etc., ça m'est apparu assez, il y a assez longtemps, je dirais en 2012-2013, au fameux moment justement où ils nous ont fait chier avec la manif pour tous, là. C'était assez insupportable, mais du coup, on a commencé à connaître Ariane et tout un tas d'autres personnes. Et il y avait toutes ces discussions autour du queer. Et je me suis dit, mais en fait, nous, si on veut un gamin, clairement, moi, je n'envisage pas de ne pas me marier parce que déjà que ce n'est pas légal en France, la PMA. Si jamais on arrive à avoir une légalisation au niveau du mariage, c'est ce qui, en tout cas, moi, à mon sens, me protégeait, entre guillemets, à minima, si je voulais, du coup, avoir des reconnaissances a posteriori sur de parentalité, etc. Et je me dis, mais en fait, à quel moment c'est pas juste complètement reproduire finalement un schéma hétéronormatif. Mais en même temps, mais qu'est-ce qui s'offre à nous si on veut être protégé au niveau de la loi ? C'est chiant. On n'a pas le choix. Et du coup, je cherchais des réponses et j'en trouvais pas beaucoup. Et il y avait pas. Ouais, je lisais pas mal de trucs sur les queers et tout machin, mais c'était extrêmement radical. Et je me disais, mais il n'y a pas, en fait, à un moment donné, un truc qui va quand même expliquer la déconstruction, malgré tout, même si tu fais partie d'un système normatif. Tu y adhères pas complètement et en même temps, te réapproprier et transformer les normes, est-ce que c'est pas queer aussi ? Ou ça a pris vachement longtemps et un jour, je me suis dit, si je faisais un master, et du coup, c'était mon sujet d'étude.
Et est-ce que tu as trouvé des réponses aux questions que tu te posais dans les rencontres avec tes interviewés ?
Ouais, carrément. Oui, parce que... Alors, il y avait ça, et puis aussi le fait que... ça, c'était au tout début, c'était les premiers questionnements. Et puis ensuite, on a eu un enfant, on a eu notre fille. Mmh. Et moi, j'ai rien trouvé, rien du tout, comme lecture concernant les mères qui n'ont pas porté. Et comment elles se construisent, et comment elles se définissent mères, et à quel moment c'est juste quand même complètement une merde, parce qu'en fait, t'as en face de toi toute une société... et même la famille qui fait partie de la société globalement, ouais. Qui te fait tout le temps ressentir que t'es pas vraiment la mère, quoi. Tu vois, la vraie mère, c'est celle qui l'a portée.
Ouais.
C'était insupportable. Et j'avais un gros problème de légitimité et je me disais, mais il n'y a rien. Et putain, qui traite du sujet, c'est chiant, quoi. Alors oui, il y avait des livres en anglais, etc. Et c'est cool parce que j'ai le capital social qui fait que j'ai voyagé et que du coup j'ai appris l'anglais et je savais le parler et j'ai pu lire, mais en France il n'y avait pas grand chose. Donc du coup j'ai réussi aussi à trouver pas mal de réponses et même qui allaient au-delà de mes questionnements parce que j'ai découvert plein de choses. C'était hyper enrichissant.
Et qu'est-ce que tu en as retenu du coup pour toi?
Qu'il fallait que qu'on arrête de se mettre la pression.
En fait. Ouais.
C'est juste, à un moment donné, c'est insupportable. De toute façon, on vit dans une société où c'est compliqué d'aller tout le temps à l'encontre des normes parce qu'en réalité, t'en refaçonnes des normes. Par exemple, à travers tout le processus de PMA et toutes ces pratiques-là, en fait, c'est ce que je mettais en tête quand je l'ai lu. D'ailleurs, quand je l'ai relu tout à l'heure, mon mémoire, hier, poser la question de savoir est-ce que le fait de légiférer la PMA en France, est-ce que ça ne va pas, du coup, d'une certaine manière, normaliser une forme de procréation chez les lesbiennes ? Parce que c'est ce que ça s'était avéré vrai, par exemple, en Espagne, je faisais le comparatif. Et je pense que oui, d'une certaine manière, parce que ça participe d'une normalisation, etc., avec tout ce qui ne va pas aussi avec du contrôle des corps des mères, des mères lesbiennes, etc. Mais en gros, il faut arrêter de se mettre la pression. On continue malgré tout à déconstruire un système hétéronormatif. On continue à créer des nouvelles façons de fonctionner dans nos familles. Et c'est ça qui est génial, en fait. Et ça ne s'arrête jamais, parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Et puis, on se rendra compte que dans quelques années... ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est un peu désuet. Il y aura d'autres façons de faire famille, encore plus originales, originales dans le sens créatif du terme. Et voilà, et c'est ça qui est chouette, c'est ça qui est queer finalement.
Ouais, tu avais commencé à l'aborder, mais c'était comment pour toi de devenir mère justement ? C'était comment ce processus ?
C'était long. C'était long parce que, alors il a quand même commencé au moment où on a fait toutes les démarches pour la PMA, quand on est allé en Belgique, déjà avant quand on s'est renseigné, ensuite quand on est allé en Belgique, tout ça, ça a participé. Il y a eu la procréation médicalement assistée, il y a eu le fait quand ma femme est tombée enceinte où j'étais genre ultra angoissée de ce qui pouvait arriver, mais c'était un truc de ouf. Et paradoxalement, plus le processus avançait et plus j'avais une peur bleue de devenir parent. J'avais peur de perdre ma liberté, j'avais peur... Alors déjà, j'avais eu peur de me marier en premier lieu, j'avais eu peur d'emménager. Enfin bref, à chaque fois qu'il y avait des étapes, j'avais peur. On a acheté un appartement, je me suis dit « Ah mon Dieu, je vais me couper les ailes, on va avoir un prêt, ça va être horrible. » Après, maintenant, c'était l'enfant, enfin, on laisse tomber. La peur de l'engagement, globalement, elle était présente, mais c'est vrai qu'elle était, elle était à son paroxysme avec l'avenue de l'enfant. Et donc, à la fin de la grossesse de ma femme, j'ai fait carrément une fuite en avant et c'était vraiment pas le cool pour elle parce que clairement elle s'est sentie seule et bon voilà, je m'en suis voulu et je me suis excusée parce que c'était pas cool quoi. Et par contre à l'arrivée de l'enfant, alors, à la naissance déjà je l'ai vu naître, voilà, j'ai vu sa petite tête sortir de côté et à partir de ce moment-là j'étais là quoi. Enfin, il y avait plus de... Elle était là et puis ben, c'était tout. Il n'y avait plus de retour en arrière. Et maintenant, il fallait s'en occuper de ce petit bébé tout mignon qui venait d'arriver. C'était la plus belle. Je l'avais bien repérée à la maternité. J'avais dit, elle, c'est ma fille. C'est bon, je sais à quoi elle ressemble. On ne va pas me la piquer. J'avais peur, tu sais, des échanges d'enfants. Mais non, mais je suis complètement anxieuse, en fait, surtout. C'était horrible. Du coup, je l'avais repérée. J'allais la voir toutes les 2 minutes.
Okay.
Voilà, donc c'était long. Et puis ensuite, bah, une fois qu'elle est née, c'était pas fini parce qu'il y avait voilà, tout ce souci de légitimité. Alors, j'avais aussi peur qu'il arrive un truc à Élise parce que je me suis dit, s'il arrive un truc, moi, j'ai toujours pas commencé le processus d'adoption. Puis, il faut attendre 6 mois en plus avant de le commencer pour des raisons à la con. Qui ne sont pas forcément en plus justifiées parce qu'elles ne correspondent pas à notre cadre vraiment de familial en termes d'adoption. Bon, bref. Et donc, il fallait attendre 6 mois et je me suis dit, mais s'il arrive un truc entre le moment, voilà. Et moi, je n'ai pas les droits. Enfin, je ne suis pas reconnue mère légalement. Je suis dans la merde, en fait. On peut me retirer mon enfant, quoi. C'est horrible. Donc, j'avais peur. Il y avait aussi le fait que j'étais ultra agressive avec tout le monde qui me faisait ressentir, que ce soit vrai ou pas, hein, parfois c'est peut-être moi qui l'ai ressenti, c'était pas là. Le fait que j'étais pas, j'étais un peu une mère autre, quoi, j'étais pas vraiment la vraie mère. Et ça me rendait dingue quand j'entendais mon beau-père dire la fille de ma fille. En parlant, et j'étais là, et moi aussi je suis là, bordel! Et quand Élise disait, j'étais devenue dictatoriale. Quand Élise disait, qui est donc ma femme, quand elle parlait de notre enfant et elle disait ma fille, je lui disais, mais c'est notre fille! C'est notre fille! Et elle me disait, mais arrête, en fait, tu m'empêches d'être une mère, quoi, tu te rends pas compte de ce que tu fais. Et je lui dis, mais toi, tu te rends pas compte de ce que c'est d'être à ma place. Et je l'ai lu d'ailleurs, elle l'a extrêmement bien expliqué, parce qu'il y a pas longtemps d'ailleurs, c'est marrant, j'ai lu le livre de Gabrielle Richard qui s'appelle « Faire famille autrement ». Et elle parle justement du privilège du lien biologique. Et c'est tellement ça. C'est tellement ça, en fait. Et du coup, j'en ai parlé là. Quand je l'ai lu, j'en ai parlé à ma meuf. Elle me dit « Ouais, clairement, c'est ça, en fait. C'est un privilège, en fait. Tu fais pas face, en fait, à tout ce que les mères qui ne portent pas. » Mais qu'elles aient des liens génétiques ou pas, hein, parce que tu as des femmes qui donnent leurs ovocytes, qui sont fécondés et qui sont portés par la conjointe. Et malgré tout, tu as ce truc de lien biologique qui est ultra présent parce que c'est la femme qui a accouché qui est la mère. Quoi, tu vois. C'est hyper chiant. Et donc, pour finir, la personne qui m'a fait me rendre compte que vraiment, j'étais maman à part entière et j'étais sa mère à elle, c'est ma fille. C'est au fur et à mesure, le lien s'est créé et c'est elle qui m'a donné ma parentalité, en fait. C'est elle qui m'a donné ma légitimité. C'est à travers ses yeux, à travers la façon dont elle s'adressait à moi, comme elle me reconnaissait, en fait. Une fois que j'ai eu ce lien et que j'ai eu cette reconnaissance à travers elle, finalement, les autres m'importaient peu, puis je les envoyais chier parce qu'ils n'avaient pas leur mot à dire, en fait.
C'est clair.
Voilà.
T'en as un peu parlé, mais vite fait. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, par rapport à l'envie de devenir parent, on va dire, de manière générale, en tout cas à la décision à prendre à un moment donné, on trouve soit les qui sont complètement opposés à ce truc, injonction à la maternité, c'est horrible, c'est gros non, quoi. Ou alors c'est le « j'en ai toujours voulu », c'est la nature, c'est incroyable, c'est magique. J'ai beaucoup de mal à trouver des récits ou des histoires qui se placent ailleurs qu'entre ces deux extrêmes.
Ça fait quand même pas mal appel à mon mémoire où effectivement les personnes que j'ai enquêtées avaient vraiment ce ressenti viscéral, ce désir naturel d'aussi longtemps qu'elles s'en souvenaient. C'est le récit qui ressort énormément. c'est l'aspect naturalisé en fait du désir, il est présent dans le discours des lesbiennes, en tout cas interrogées. Bon, en fait, tu te rends compte que c'est pas si naturel que ça et qu'on vit dans une société où ce qui est naturel, est, en tout cas naturalisé, et en réalité est socialement construit. Je l'explique beaucoup mieux dans mon mémoire. mais oui, effectivement, ça ressort. Après, pas toutes. Et en tout cas, pas en ce qui me concerne. Personnellement, j'ai jamais eu un désir d'enfant d'aussi longtemps que je m'en souvienne. Au contraire, j'en avais pas particulièrement envie. Quand on s'est rencontrés avec ma femme, elle m'a posé au bout d'une semaine la question « Est-ce que tu veux des enfants ?» J'étais là genre « Waouh !» Alors, en fait, comment te dire, je n'ai pas encore 30 ans, je ne sais pas ce que je veux dans la vie, ni dans une semaine. Donc, c'est quand même une grosse question. Et puis, en plus, c'est quand même elle qui en avait vraiment, vraiment profondément envie et qui a forcé le truc. J'en suis très heureuse maintenant. Mais voilà, pour être complètement honnête, ce n'était pas forcément un désir partagé au départ. Donc, et ça existe. Enfin, d'ailleurs, il y a pas mal de... Il y a quelques personnes que j'ai interrogées qui étaient dans le même cas que moi. Donc, en fait, à travers ça, je m'y retrouvais aussi. Je n'avais pas l'impression d'être complètement une alien. Parce que c'est vrai que quand tu entends le discours de certaines personnes, tu as un peu l'impression de te sentir complètement à la marge et à te dire, mais purée, moi, j'en ai pas eu toujours envie. Puis le désir, il est vraiment venu sur le tard et il est venu à travers la conjugalité, j'en parle aussi dans mon mémoire, du fait que, voilà, parce que j'étais en couple avec une femme, c'est venu. Et d'ailleurs, il y a une nana qui en parle aussi et qui le dit très bien. Alors, elle a été mère parce qu'elle était en couple avec une femme. Alors qu'à la base, elle est bi. Et c'est vrai que, clairement, je pense que ça joue énormément. Parce que c'est aussi une maternité politique, la maternité lesbienne, clairement. C'est aussi faire un gros pied de nez à un conscient collectif qui fait que ben, quand tu es lesbienne, forcément, tu as une sexualité récréative, tu es stérile, tu ne sers pas à la reproduction hétéronormative. Donc, t'as pas vraiment d'utilité, tu vois. Non, en fait, je suis pas stérile, je suis lesbienne. Pour répondre à ma mère quand je lui ai annoncé que j'étais lesbienne et qui m'a dit « Mon Dieu, je ne serai jamais grand-mère », c'est très politique, c'est politisé. Et puis, qu'on le veuille ou non, c'est aussi féministe, quoi. Donc...
Depuis que je n'ai pas le droit, je veux un enfant dans le ventre. J'aurais sûrement dû taire parfois l'envie si grande et menaçante. Depuis que mes amis me mentent, qu'ils disent que je suis comme les autres. Je veux un enfant dans le ventre, qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose, grandiose. La vie que j'avais inventée pour toi, la vie qu'on nous vend bien tracée, une vie comme ça n'existe pas. Depuis la première goutte de sang, les bouches qui s'effleurent dans la cour, je veux un enfant avant de connaître l'amour, l'amour qui déborde de moi, qui dit tu n'es pas comme les autres. Des filles prendront ton cœur à toi, bats-toi, t'auras une vie grandiose, grandiose. Parfois, l'envie si grande et menaçante.
puis les cloches assourdissantes, le gris de l'église de fond rose. Je veux un enfant dans le ventre, qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose. Grandiose.
On avait aussi des questions sur les enjeux raciaux dans la PMA.
Ah oui.
Du coup, bah, il y avait une question sur par rapport aux meufs racisées que tu as interviewées. Comment elles ont vécu ces trucs-là?
Alors, en fait, elles ne sont pas passées par une PMA.
Eh oui.
Okay. Elles sont passées par une insémination artisanale. Ouais. Et il y en a une... qui l'a fait de manière volontaire, en fait, parce que quand elle est partie en Espagne, on lui a dit qu'elle n'aurait pas la possibilité de choisir un donneur, parce que c'était des donneurs anonymes, et que ben, pour elle, ce n'était pas acceptable, parce que elle, ben voilà, c'était un choix politique d'avoir un donneur racisé, parce qu'elle l'était elle-même. Du coup, elle est passée par une insémination artisanale. Enfin, en fait, oui et non. Enfin, elle est passée par une... ce que j'ai considéré dans des inséminations artisanales, mais en qui en fait, elle a eu une relation sexuelle avec un homme pour obtenir justement son enfant.
Je ne sais pas si c'est quelque chose qui revenait, mais en tout cas, que moi j'ai pu entendre ou auquel moi-même je peux penser à des moments, de se dire l'envie de transmettre une culture minorée. En fait, de se dire que la culture minorée, elle va pouvoir perdurer à travers un enfant.
Est-ce qu'il y a encore la question?
En fait, c'est pas totalement vrai. Quand je suis en train de penser à une des enquêtées, mais qui elle n'a pas porté, en fait, c'est la mère non génitrice qui était d'origine algérienne et elles sont passées par une PMA avec sa conjointe qui était blanche. Et oui, c'était un donneur complètement anonyme. Et en fait, elle il y a eu cette transmission culturelle qui est extrêmement importante de son côté et qu'elle met aussi en pratique à travers son choix de se faire nommer par son enfant, qui l'appelle Biba pour diminutif de Habiba. Et du coup, ouais, effectivement, elle l'explique bien que c'était important, c'était au-delà de la façon d'être dénommée, aussi de pouvoir transmettre voilà, tout ce capital culturel qui lui est propre. C'est vrai que c'est important. D'une certaine manière aussi, je me lis un peu à ce discours-là parce que moi, j'ai des origines espagnoles et c'est vrai que quand tu vois ma fille qui est une petite blondinette aux yeux bleus avec la peau blanche comme le lait et que tu me vois, moi, à côté, bah déjà, d'ailleurs, j'ai déjà eu des réflexions par rapport à ça, ça m'a sacrément énervée. Mais, mais c'est vrai que c'est un truc aussi que j'ai envie de lui transmettre. Alors, c'est marrant parce qu'en plus, le capital culturel, moi, au niveau espagnol, franchement, ça s'est énormément dilué parce que mon grand-père, il a tellement peu appris finalement de la culture espagnole à ses propres enfants que voilà, les générations qui ont suivi, elles n'avaient plus beaucoup d'informations. Mais voilà, malgré tout, ça me tient à cœur. Et puis voilà, alors, elle a quand même mon nom de famille. Ça, par contre, j'y tenais énormément. Donc ouais, à défaut de transmission génétique, tu as la transmission culturelle qui est hyper importante, en fait, de ce côté-là.
Et moi, j'ai une autre question autour du truc de biopouvoir et tout. Ça m'a hyper touchée parce que, en fait, moi, depuis le début, ce truc de, en fait, pour avoir des droits, il faut aller faire la PMA à l'hôpital et c'est le sous-sol de l'hôpital, il y a des médecins et tout. Ça m'érisse l'épaule juste d'y penser. En fait, j'ai l'impression que c'est comme un chantage de l'État. Enfin, en fait, on doit passer par eux pour obtenir des droits, quoi. Et ça me met hyper en colère. Mais du coup, je me demandais si dans les échanges avec les différentes personnes que tu as rencontrées, tu avais pu élaborer un peu des stratégies, enfin, il y avait eu des partages de stratégies pour y échapper ou pour... Enfin, ouais, voilà, je sais pas si tu veux dire des trucs sur ça.
Alors, il y a eu deux points de vue. Il y a eu un point de vue où c'était, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc, c'était une acceptation totale des normes parce que, ben, voilà, le discours qui revenait, c'était on veut être protégé. Alors, il y avait de toute façon une espèce de normalisation qui s'était faite chez certaines personnes où, de toute façon, dans leur tête, elles se disaient, si je veux un gamin, il faut que je fasse une PMA. Pour elles, c'était comme ça. Et ça fait aussi partie du processus de normalisation. Donc, voilà, première étape. Il y avait aussi d'autres trucs qui étaient que. Il y en a qui voulaient passer par la PMA pour justement, exactement comme nous, ce qu'on a fait, c'est protéger en fait les futurs droits des parents et des enfants. Et puis, il y en avait qui étaient formellement opposés à toute médicalisation de la procréation pour des raisons éthiques, pour des raisons économiques, parce que ça coûte une blinde. Pour des raisons éthiques, parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir l'aval d'un État qui donne des petites miettes de loi et de droit à une population différente, même si à l'époque, il n'y avait pas encore la loi pour la PMA. Ouais, un refus du contrôle des corps aussi, des corps lesbiens par rapport au corps médical. Et alors, oui, tu as toutes des stratégies qui sont mises en place, tu as des réseaux, en fait. Globalement, les enquêtées, ce qu'elles ont fait, c'est que, comme toutes les lesbiennes, en fait, quand tu veux avoir un gamin, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur Internet, quoi. Tu fais appel à ton entourage, mais à l'heure actuelle, maintenant, tu as tout sur Internet, tu as tout sur les réseaux sociaux. Et en gros, tu prends tes informations là-dedans, mais tu deviens une vraie experte, quoi. Franchement... Tu t'acquiers une expertise juridique, sociale, c'est malade, hein, t'apprends plein de trucs. Donc, mais tu te crées en fait ton propre savoir et puis tu partages ensuite, tu fais circuler des informations et puis c'est ça surtout qui s'est passé pour ces personnes-là. Avec, comment tu fais pour procréer? La plupart du temps, tu prends une pipette de Doliprane et puis... Puis voilà, tu mets le sperme dedans et tu l'insères ensuite dans le vagin de ta compagne, quoi. Enfin, ouais. Ou elle le fait elle-même quand c'est des personnes qui sont célibataires. Donc voilà les stratégies qu'elles ont mises en place. Mais après, tu as eu aussi des trucs avec des contrats sociaux ou des contrats écrits, mais qui n'ont aucune valeur légale en réalité. Et je trouve ça dommage parce que finalement, c'est un peu... Bon, bah voilà, c'est essayer de se donner un peu une croyance... Que ça va marcher c'est pas dommage parce que c'est un jugement de valeur de dire ça, mais c'est dommage que la société en arrive à ce genre de stratagème parce qu'au final, s'il y a un problème, ça n'a aucune valeur légale et que si par exemple, tu as le donneur qui veut reconnaître l'enfant, ben, il aura absolument tous les droits et il ne va pas consulter la personne ni aucune des deux personnes. Il va aller en mairie et il va reconnaître le gamin. Ouais. Et ensuite, la personne qui n'a pas porté l'enfant, elle n'aura que ses yeux pour pleurer parce qu'elle n'aura aucune reconnaissance, même aucune possibilité d'un jour avoir un rôle parental auprès de son propre enfant. Horrible. Et en plus, elle sera obligée de donner la place à cette personne qui maintenant se sera attribuée en fait cette fonction qui au départ était juste une fonction un peu symbolique. Et bah, du coup, elle aura pris cette fonction complètement, un rôle parental, alors que tu n'es pas dans l'équation, quoi.
Est-ce que tu dirais, toi, que la parentalité lesbienne est émancipatrice? Si émancipation il y a, est-ce que tu as l'impression que, comment dire, que c'est une émancipation... individuel, c'est-à-dire que les personnes qui passent par là, en fait, bah, ça, pour plein de raisons différentes, mais en tout cas, ça peut avoir ce rôle-là dans leur vie. Ou est-ce qu'il y a du potentiel émancipateur collectif, en fait, soit via la transformation des normes. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais
oui, c'est clair. Et en fait, je dirais oui et non en réalité. Oui, elle est émancipatrice en fonction des modèles aussi que tu choisis, en fonction des modèles que tu optes pour faire famille. Par exemple, c'est vrai que dans les modèles de coparentalité, au départ, la coparentalité, c'était, il y a quelques années de ça, c'était un moyen hyper émancipateur par rapport à l'hétéronormativité en place pour faire famille, pour les personnes homosexuelles et lesbiennes. La société évoluant, les normes juridiques et sociales évoluant aussi, on s'est rendu compte que ce modèle de coparentalité, finalement, il devenait de plus en plus désuet. Et aussi, il, finalement, au départ, c'était un peu le modèle queer par excellence, parce que bah, ça, c'est un gros pied de nez au modèle père-mère. Mais en fait, plus la société évoluait, plus il y avait des différents... façon de faire famille, même au niveau hétérosexuel qui évoluait, on s'est rendu compte que la coparentalité, finalement, elle reproduisait quand même pas mal des schémas très hétéronormatifs avec voilà, un père, une mère ou deux mères, enfin, voilà, avec cette espèce de binarité de normes, en fait. Et du coup, et aussi le fait de devoir composer, finalement, avec une tierce personne, alors que au final, les lesbiennes, quand elles ont commencé à se rendre compte qu'elles pouvaient juste avoir des enfants que entre elles, ça a changé la donne, en fait. Et elles ont décidé de, pour beaucoup, hein, maintenant, c'est quand même, y a quand même pas mal de cas où elles décident finalement de faire des enfants que entre elles, de ne pas faire intervenir une tierce personne, quoi, qui en l'occurrence est un donneur. Donc, et puis même quand il y a des donneurs, je veux dire, le rôle du donneur, il est quand même hyper cadré. Enfin, c'est juste le noyau parental. Ou même quand elles sont seules, elles le disent, hein, c'est moi et c'est mon enfant. Et quand il y a un donneur de connu, c'est juste elles, les parents, et c'est bien déterminé. Enfin, voilà, elles insistent là-dessus et elles élèvent leurs enfants toutes seules. Et c'est aussi pour démontrer que... elles en sont capables, elles n'ont pas besoin de cette espèce de puissance paternelle qui n'existe plus d'ailleurs dans la loi, mais voilà, elles n'ont plus besoin d'éduquer un enfant et d'élever un enfant et de faire un enfant avec un homme. Alors, elles ont besoin d'un composant génétique, évidemment, elles ne peuvent pas faire toutes les deux toutes seules. Quand je parle des cas de mères lesbiennes cis, voilà. Donc voilà, donc oui, effectivement, c'est faire un pied de nez à toute cette société qui estime que ben, pour faire un enfant, et ben, il faut absolument la présence d'un père de façon symbolique et de façon aussi plus que symbolique. Enfin, cette espèce de moi je le compare un peu à un nuage gris qui plane au-dessus de notre tête, tu vois, genre bah, t'as deux mères. Ah, forcément, l'enfant, il ne va pas avoir complètement ses cadres, il manque d'autorité, tu comprends. En plus, moi, je le vois là avec ma fille, qui, j'adore, mais elle a un caractère, punaise. En même temps, avec les deux mères qu'elle a, on peut pas faire autrement, mais... Et tu vois, le truc parfois du regard des autres, et même de la famille, hein, où quand ta fille qui te fait une crise, et déjà, tu as trop honte parce que tu es chez tes parents... Et... Du coup, t'es là genre, oh, mais arrête, Dieu. Ils vont penser que je n'ai pas élevé ma gamine. Et tu sais, t'as un peu le truc au-dessus de ta tête où tu te dis, mais les gens vont se dire que si elle me parle comme ça, qu'elle n'a aucun respect pour moi, c'est parce qu'en fait, elle a deux mères et que du coup, bah, comme on est deux mères, on n'a pas l'espèce d'autorité. Bon, c'est mal nous connaître, mais c'est moche, quoi. Ouais. Parce qu'en plus, t'as tendance à en faire des caisses, tu vois. T'as tendance à serrer la vis plus que d'habitude et tu te dis mais c'est vraiment con quoi, tout ça pour le regard des autres, enfin vraiment.
Et du coup c'est un bon lien avec la question d'après, parce que quand on a échangé la première fois t'as dit une phrase genre ma parentalité elle est très politique ou quelque chose comme ça, et du coup ça m'intéressait d'en savoir plus, qu'est-ce que tu veux dire par là, enfin c'est quoi ta pratique politique de la parentalité si tu veux développer.
Alors déjà c'est d'être visible. Mais globalement, bon, moi, pour la petite histoire, je suis partie en Australie 2 ans, juste après que j'ai fait, enfin, vraiment quelques temps après que j'ai fait mon coming out. Et j'étais quand même, enfin, j'étais placard quand même sur pas mal de choses. Et quand je suis revenue d'Australie, je me suis dit, mais plus jamais de la vie, jamais, jamais, jamais je vais être placard, plus jamais. Du coup, dans n'importe quelle société où j'ai été embauchée, s'il n'y avait pas de sujet, quoi. Donc voilà, je ne me suis jamais cachée. Et puis, quand ma compagne a été enceinte, c'était clair dès le départ que j'allais le dire. Et puis, quand je parle de ma famille, bah, je parle de ma famille, quoi. Je me cache pas, je me rends même pas compte, en fait, à force. Alors oui, au départ, c'était politique parce que j'avais envie aussi, tu vois, d'être reconnue en tant que mère. C'était un peu mon combat. Et puis finalement, ça s'est tassé, ça. Et maintenant, je me rends compte que j'en parle. Et puis, d'une certaine façon, de toute façon, c'est politique parce que tu visibilises ta famille, donc, qui est à la marge. Donc forcément, ce discours-là, il est politique. Et il est aussi politique parce que de toute façon, il est hors de question que je m'en cache, quoi. Donc, si ça dérange des gens, ben, je m'en fous. C'est leur problème, c'est pas le mien. De toute façon, j'ai remarqué que quand tu parles de ça, les gens vont pas faire de remarques. Ils font peut-être derrière ton dos, mais globalement, ils le font pas en face de toi, quoi. Et puis, juste aussi, juste pour finir, ma parentalité, elle est aussi politique par rapport à ma fille, parce qu'il est hors de question que je sens, enfin, qu'elle ressente que ce qu'elle vit avec sa famille, c'est pas bien. Parce que ça n'a rien à voir avec le fait d'être pas bien ou pas bien. Enfin, c'est juste à voir avec le fait qu'on est une famille, certes un peu à la marge, parce qu'il n'y a pas beaucoup de représentation, mais on est légitime et on existe. Et c'est une bataille de tous les jours. Hein. Dans le système hétéronormatif dans lequel on vit, c'est compliqué, quoi. C'est tous les jours de réexpliquer à ta gamine que bah ouais, il y a différentes familles. C'est normal. Alors elle a des questionnements et un peu moins maintenant, mais des fois ça peut revenir. Et de toute façon, moi je lui ai toujours dit, mais tu sais, chouchou, si tu as des questionnements, ta question, on est là, tu nous poses des questions, que ce soit par rapport à ta famille, que ce soit par rapport à ta conception. De toute façon, elle le sait depuis qu'elle est née, de comment elle, même avant, on lui avait expliqué dans son ventre ce qu'on faisait. Donc elle le sait très bien. C'est une experte en procréation, ma fille. Elle connaît tous les gamètes et tout machin. La gamine, elle a 6 ans. Franchement, même il y a des adultes qui n'ont pas autant de connaissances sur la procréation que elle, quoi. Donc, qu'on nous dise qu'on ment à nos enfants, alors là, j'ai envie de te dire, what the fuck. En attendant, ce n'est pas nous qui nous faisons passer pour des pères naturels, entre guillemets, alors que pour juste... continuer le roman familial hétérosexuel. Pardon, je dévie, mais parce que ça m'agace. Et c'est hyper important pour elle. Et donc, on lui dit, t'as des questions par rapport à quoi que ce soit, mes mots d'honneur. Et elle en a, et elle nous les pose. Et je pense que c'est hyper sain qu'elle nous les pose et qu'on ait les réponses. J'espère qu'on fait les choses bien. J'espère qu'on lui apporte toutes ses réponses. J'espère qu'on l'aide dans sa construction identitaire. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une grosse source d'anxiété. C'est ma peur. Je me dis, mais j'espère qu'elle est bien, quoi, ma fille. C'est tout ce que j'espère. J'espère qu'elle est heureuse, qu'elle se marre, qu'elle est bien, voilà, qu'elle se construit correctement. Et c'est vrai qu'on a tellement à faire en face de nous des gens qui sont tout le temps jugeants, une société jugeante. Même des gens qui sont super bienveillants et qui ne s'en rendent pas compte. Hein. Des fois, c'est comme ça. Et on a toujours peur de mal faire, finalement, parce que c'est un peu ce que nous renvoie la société, quoi. Donc, on crée, on innove, on essaye de faire ce qu'on peut. Et franchement, il faut qu'on arrête de se mettre la pression parce que personne n'est parfait, quoi. Mais c'est important de politiser ça et de faire en sorte que les enfants s'en rendent compte aussi que c'est un combat. Enfin, ma fille, je lui ai dit, hein, je lui ai dit, tu sais, les mamans, elles se sont battues hein, pour avoir le droit de faire des enfants. C'est pas venu tout seul. On a fait des manifestations. Enfin, voilà, on a fait valoir nos droits. Elle me dit, mais maman, tu t'es battue. Non, mais elle me fait, mais du coup, tu t'es tapée. Je fais, non, c'est pas battue. Enfin, oui, ceci dit, c'est déjà arrivé, mais pas dans ce contexte-là. Je fais, non, là, on s'est battue avec nos mots, chouchou. C'est ça, tu vois, tu te bats avec des mots, en fait. C'est la guerre des mots, quoi. La guerre des idées.
C'est clair. À propos de guerre des idées, est-ce que tu as des recommandations culturelles? Ou si tu veux partager des trucs que tu lis, écoutes ou fais, qui te nourrissent en ce moment et que tu te dis, ah, ce serait chouette à partager.
Alors, vraiment, vraiment, grosse recommandation, c'est le livre de Gabriel Richard que j'ai lu, Faire famille autrement, parce que franchement, si je l'avais eu sous la main au moment où j'ai rédigé mon mémoire, franchement, ça m'aurait facilité la tâche. Si j'avais eu sous la main aussi quand j'ai décidé, enfin, quand on a décidé d'être mère, ça aurait été vraiment plus facile pour moi, c'est clair. Des podcasts, il y a Les couilles sur la table, il y a votre podcast aussi, La poudre, enfin voilà. Quelles sont les personnes qui m'ont aidée? Il y a Virginie Descoutures aussi pour les mères lesbiennes. Voilà, là tout de suite, j'ai un peu un blanc. Ah, mais aussi, mais oui, mais bien sûr, il y a la déferlante, mais c'est magique.
Ouais.
La déferlante, c'est super. Et puis, il y a le magazine aussi de... le magazine Gwyn, comment il s'appelle ce magazine Gwyn? Well, 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 ben voilà. Okay. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ce mois-ci, pour la chronique poétique Regard lesbien, A Baby, Really?
À 36 ans, il paraît que c'est maintenant. Ils disent déjà qu'on n'a plus le temps. Est-ce qu'on se prend pour Dieu? N'a-t-on vraiment rien à faire de mieux? Puis pour reconnaître son propre enfant, déjà faut passer par les hommes en blanc. Baiser avec l'État, non, ça, non, je veux pas. Patriarcat, même sans papa, t'es toujours là. Puis refaire une famille, sa folie, ses dénis?
Ses sacrifices, ses non-dits?
Avoir de nouveau peur de la police, de la maladie?
De manquer d'argent et des courtes nuits?
Moi qui croyais en être sortie du mode survie. Moi qui croyais que c'était fini les compromis. Alors quoi? 10 ans de déconditionnement, tout ça pour finir à jouer la petite maman? Et puis, est-ce qu'on est assez entouré? Est-ce qu'on est en assez bonne santé?
Est-ce que je pourrais l'amener en Algérie? Est-ce que je suis prête à trahir encore une fois qui je suis? Est-ce que c'est me blanchiser? Est-ce que cet enfant sera racisé si c'est pas moi qui dois le porter? Pff, trop de questions, trop de remous. Trop de doutes?
En amour, on n'en a pas besoin. Mon bonheur, on est obligé de rien. Toi et moi, c'est tellement de la magie, quelle que soit la vie qu'on se choisit.
Des envies contradictoires, mais heureusement. En fin de compte, on a le temps. Et les dossiers, ça prend 2 ans.
Call you girlfriend. You don't gotta be my wife. Maybe you could be my car. just to love without the words to define. But maybe you and me could get by. Somehow I think we'll be fine.
Vous venez d'écouter Sometimes de Be Steady. Et un peu plus tôt, au milieu de l'interview, vous avez entendu Grandiose de Pomme. Ce mois-ci, dans la Guinothèque, je vais vous lire quelques extraits du texte Petit homme, réflexion d'une lesbienne féministe noire, d'Audrey Lorde, paru dans Sister Outsider. Ce texte n'est en aucun cas une discussion théorique sur les mères lesbiennes et leurs fils, ni un mode d'emploi. J'essaie plutôt d'analyser et de vous faire part de certains aspects de cette histoire commune que nous partageons, mon fils et moi. J'ai deux enfants. Une fille de 15 ans et demi, Beth, et un garçon de 14 ans, Jonathan. C'est le récit de comment les choses se sont passées et se passent entre moi et Jonathan. Et je laisse la théorie à d'autres, en d'autres temps. Je parle ici de mon expérience personnelle. Je n'ai pas de recette miracle à proposer aux autres mères lesbiennes sur l'éducation des garçons, ni de secret à partager pour éclairer vos questions d'un jour nouveau. J'aborde à ma façon ces mêmes questions, et j'espère que nous voudrons toutes en parler et partager nos expériences. Nous en avons tant besoin. Au-delà des limites imposées par la page imprimée, nous entrons en contact les unes avec les autres et nous nous interrogeons sur l'utilisation de nos propres connaissances, comme de celles des autres. C'est de l'intérieur de nous-mêmes que nous vient la conduite la plus honnête. Je donne une très grande force à mes enfants en regardant au plus profond de moi et en leur disant la vérité sur ce que j'y ai trouvé, sans attendre qu'ils grandissent. De cette façon, ils commencent à apprendre à dépasser leurs propres peurs. Tous nos enfants sont la promesse d'un royaume encore incertain. Élever des enfants noirs, filles et garçons, dans la bouche d'un dragon raciste, sexiste et suicidaire, représente une entreprise périlleuse et incertaine. S'ils ne savent pas aimer et résister à la foi, ils ne pourront probablement pas survivre. Les mères leur apprennent l'amour et la survie, soit se définir soi-même et lâcher prise. Dans les deux cas, la capacité à ressentir profondément ses émotions et à les admettre devient centrale. Comment éprouver de l'amour? Comment faire face à la peur? Et comment ne pas être submergé par elle? Comment jouir pleinement de ses émotions? Je souhaite élever un homme noir qui ne soit pas détruit par, ni n'accepte ces horreurs baptisées pouvoir par les pères blancs qui veulent sa mort aussi sûrement qu'ils veulent la mienne. Je veux élever un homme noir qui soit capable de reconnaître que l'objet légitime de sa colère, ce ne sont pas les femmes, mais les particularités d'une structure sociale qui le programme à craindre et à mépriser les femmes, tout comme sa propre identité noire. Pour moi, la première étape de mon travail consiste à apprendre à mon fils que je ne suis pas là pour ressentir les choses à sa place. Les hommes effrayés par les émotions doivent s'entourer de femmes accomplissant ce travail émotionnel à leur place, tandis qu'ils nous dévalorisent et nous déclarent incapables de toute émotion profonde. En agissant ainsi, les hommes nient leur propre humanité et se prennent dans les filets de la dépendance et de la peur. En tant que femme noire engagée dans la construction d'un monde meilleur et en tant que mère aimant et élevant un garçon appelé à devenir un homme, je dois envisager toutes les possibilités de survie au sein d'un système aussi destructeur. Jonathan avait 3 ans et demi lorsque j'ai rencontré Frances, mon amante. Il avait 7 ans lorsque nous avons commencé à vivre tous ensemble de façon permanente. Dès le début, Frances et moi avons insisté pour qu'il ne soit pas fait mystère de notre lesbianisme à la maison, ce qui a été à la fois source de problèmes et de force pour pour les deux enfants. Au départ, cette insistance provenait de notre conviction, à toutes les deux, que tout ce qu'on cachait, par peur, pouvait toujours se retourner contre les enfants. Ou contre nous. Cet argument, quoique imparfait, est très utile pour devenir honnête. Ce que nous enseigne la peur peut nous aider à nous rendre libres. Car pour les assiégés, il n'existe aucun endroit qui ne puisse pas être une terre d'accueil, ni aucun endroit qui le soit. Pour survivre, les enfants noirs en Amérique doivent être élevés comme des guerriers. Pour survivre, ils doivent aussi apprendre à reconnaître les multiples visages de l'ennemi. Les enfants noirs des couples de lesbiennes possèdent cet avantage. Ils apprennent, très tôt, que l'oppression peut prendre différentes formes. Je me souviens, et cela m'aide à prendre du recul, que pendant des années, au moment de l'appel à l'école, les gamins ne hurlaient pas à la figure de Jonathan. « Ta mère est une lesbienne !» Mais plutôt, « Ta mère est une négresse !» Quand Jonathan a eu 8 ans, et qu'il est entré en primaire, nous avons déménagé. Et il est devenu le souffre-douleur de sa nouvelle école. Il n'aimait pas les jeux brutaux. Il n'aimait pas se battre. Il n'aimait pas jeter des pierres sur les chiens. Tout cela a fait rapidement de lui une proie facile. Quand un après-midi, il revient en pleurs à la maison, Beth m'apprit que les petits durs du quartier faisaient cirer leurs chaussures à Jonathan au retour de l'école, chaque fois qu'elle n'était pas là pour les faire déguerpir. Et quand j'ai appris que le chef de la bande était un petit garçon de la taille de Jonathan et de sa classe, j'ai alors ressenti une chose intéressante et très troublante. Sous le coup de la colère, au souvenir de ma propre impuissance enfantine, et peinée de le voir souffrir à son tour, j'ai brusquement oublié tout ce que j'avais appris sur la violence et sur la peur. Et blâmant la victime, j'ai commencé à siffler aux oreilles de l'enfant en pleurs. La prochaine fois que tu reviens ici en pleurant. Et soudain, je me suis fait horreur. C'est de cette façon que nous commençons à détruire nos garçons. En prétendant les protéger et pour calmer notre propre souffrance. Mon fils venait de se faire tabasser et j'allais lui demander d'avaler sa première leçon de corruption par le pouvoir. Je pouvais m'entendre lui ressortir ses vieux clichés sur la force et la bravoure. Décidément non. Jonathan n'avait pas à se battre s'il ne le voulait pas. Et quelque part, il se sentait vraiment mieux en refusant de se battre. Une vieille image terrible vint me rattraper. Celle d'une petite fille obèse, s'enfuyant, terrifiée à l'idée qu'on casse ses lunettes. À cette époque, une femme pleine de sagesse me dit « As-tu déjà raconté à Jonathan que petite, tu avais toujours peur, toi aussi ?» Sur le moment, cette idée m'a semblé hors de propos. Mais lorsqu'il rentra à nouveau en pleurant, tout en âge d'avoir échappé à ses assaillants, je me suis rendu compte qu'il se sentait honteux face à moi. Écrasé par une image de mère, femme, que lui et moi avions créée dans sa tête. Cette image de femme capable de tout assumer se voyait renforcée par le fait qu'il vivait en compagnie de 3 femmes fortes. Ses mères lesbiennes et sa grande sœur au caractère bien trempé. À la maison, pour Jonathan, le pouvoir était incontestablement féminin. Parce que notre société nous apprend à penser en termes exclusifs, tuer ou être tué, dominer ou être dominé. Cela impliquait qu'il devait soit vaincre, soit être vaincu. J'ai pu me rendre compte des dégâts provoqués par ce mode de pensée. Il suffit de regarder les 2 mythes ou modèles occidentaux de relations mère-fils. Jocaste Œdipe, le fils qui baisse sa mère, et Clytemnestre, Oreste, le fils qui tue sa mère. Tout cela est lié pour moi. Je me suis assise au milieu des marches, j'ai pris Jonathan sur mes genoux et j'ai essuyé ses larmes. Est-ce que je t'ai déjà raconté à quel point j'avais toujours peur à ton âge? Je n'oublierai jamais le visage de mon petit garçon pendant que je lui racontais l'histoire de mes lunettes et de mes bagarres au retour de l'école. Il avait à la fois l'air soulagé et totalement incrédule. Il est aussi difficile pour nos enfants d'admettre que nous ne sommes pas tout-puissants que pour nous, parents, de le savoir. Mais ce savoir est un premier pas nécessaire pour envisager le pouvoir autrement qu'en termes de force, d'âge, de privilège ou d'absence de peur. C'est une étape importante dans la vie d'un garçon. Cette société commençant son entreprise de destruction dès qu'elle le pousse à croire qu'il ne peut être fort que s'il ne ressent aucune émotion ou qu'il gagne. J'ai pensé à tout cela lorsqu'un an plus tard, un journaliste a demandé à Beth et à Jonathan, alors âgés respectivement de 10 et 9 ans, en quoi le fait d'être les enfants d'une féministe avait eu une influence sur eux. Jonathan lui répondit que le féminisme ne changeait pas grand-chose dans la vie d'un garçon, hormis le fait incontestablement positif que c'était bien de pouvoir pleurer quand il en éprouvait le besoin et de ne pas être obligé de jouer au football quand il n'en avait pas envie. J'y repense parfois quand je le regarde s'entraîner pour sa ceinture marron de taekwondo. La leçon la plus importante que j'ai pu enseigner à mon fils est celle que j'avais enseignée à ma fille. Comment devenir la personne qu'il souhaite être pour lui-même. Et la meilleure façon de le faire est d'être tel que je suis, en espérant qu'il apprendra ainsi, non pas à me ressembler, ce qui n'est pas possible, mais à être lui-même. Pour cela, il doit écouter cette voix qui vient du tréfonds de son être et se détourner des sirènes tapageuses, ensorcelantes et menaçantes, qui le pressent de se conformer à ce que le monde attend de lui. Et c'est déjà assez difficile. Jonathan est en train d'apprendre à trouver en lui les différents visages du courage et de la force, peu importe les noms qu'il choisit de leur donner. Il y a 2 ans, Jonathan avait 12 ans et rentrait au collège. L'un de ses copains de classe, régulièrement invité à la maison, persistait à appeler Frances la bonne. Après que Jonathan l'eut repris, ce garçon la désigna comme la femme de ménage. Pour finir, Jonathan lui dit tout simplement « Frances n'est pas la femme de ménage, c'est l'amante de ma mère. » Intéressant à relever, ce sont ses enseignants qui ne sont pas encore remis de son ouverture d'esprit. Vraisemblablement, il y aura toujours des femmes qui marchent avec des femmes qui vivront avec des hommes, et des hommes qui choisiront les hommes. Je travaille pour un temps où les femmes avec les femmes avec les hommes avec les hommes, s'attelleront ensemble à construire un monde où personne ne vendra son âme pour obtenir dévouement, beauté ou amour. Et dans ce monde, nous élèverons nos enfants pour qu'ils soient libres de choisir comment s'épanouir pleinement. Car nous sommes collectivement responsables du bien-être, comme de l'éducation des jeunes, puisque le fait de les éduquer est une donnée de base des espèces. Dans ce modèle tripartite de relations, de vie, tous les adultes qui choisissent d'être en contact avec des enfants portent la responsabilité partagée de les éduquer. Les enfants élevés dans chacun de ces 3 modes de relation seront évidemment différents, donnant une saveur particulière à notre perpétuelle recherche de la meilleure manière de vivre notre vie. Jonathan avait 3 ans et demi lorsque Frances et moi nous sommes rencontrés. Il en a 14 aujourd'hui. Je crois que le fait d'avoir des mères lesbiennes a aiguisé la sensibilité humaine de Jonathan. Il a eu la chance de grandir au sein d'une relation non sexiste, une relation qui refuse les rapports dominants-dominés, soi-disant naturels de cette société. Et ce n'est pas parce que Frances et moi nous sommes lesbiennes, car malheureusement certaines lesbiennes sont encore enfermées dans des schémas patriarcaux de relations de pouvoir inégalitaires. Frances et moi nous remettons en question les fondements des relations de pouvoir, souvent douloureusement et avec plus ou moins de succès, parce que nous essayons, jour après jour, d'évaluer et de prendre la mesure de nos sentiments sur le pouvoir, le nôtre ainsi que celui des autres. Et nous analysons avec attention l'utilisation et les manifestations du pouvoir entre nous deux, entre nous et les enfants, ouvertement. Nous consacrons une grande partie de nos réunions de famille bi-hebdomadaires à cette analyse. En tant que parents, Frances et moi avons donné à Jonathan notre amour, notre ouverture d'esprit et nos rêves pour l'aider à construire sa propre vision des choses. Mais ce qui est le plus important en tant que fils de lesbienne, c'est qu'il a sous les yeux un modèle très précieux de relations familiales comme de relations aux autres. Jonathan a 14 ans à présent. En discutant avec lui de ce texte et en lui demandant la permission de parler de certaines tranches de sa vie, j'ai demandé à Jonathan quels étaient pour lui les aspects les plus négatifs et les plus positifs dans le fait d'avoir grandi avec des lesbiennes pour parents. Il m'a répondu que le plus positif, c'était qu'il connaissait sur les gens beaucoup plus de choses que les adolescents de son âge et qu'il n'avait pas beaucoup de préjugés sur les hommes et les femmes, contrairement aux autres garçons.
Ce mois-ci, dans la rubrique Love, c'est Anna qui a bien voulu se prêter au jeu. Du coup, Anna, si tu veux bien commencer par te présenter, s'il te plaît, et nous dire un peu comment tu te situes socialement.
Coucou. Et du coup, j'ai 27 ans. Je suis une lesbienne blanche. Et j'ai grandi dans une famille avec... classe moyenne bourgeoise et voilà.
Et est-ce que tu veux nous raconter c'était quoi ton chemin pour te dire lesbienne?
Ouais, alors tu me coupes si c'est trop long, hein, si j'ai pas dosé. Du coup j'étais hétéro avant, enfin temps hétéro où j'étais, en fait je faisais beaucoup de sport et du coup il y avait plein de lesbiennes autour, mais donc j'avais quand même des lesbiennes autour de moi au lycée, mais je me disais pas, enfin ça m'intéressait pas du tout, et après c'était au bout d'un moment j'ai décidé que je voulais plus être avec des hommes parce que je les aimais pas et que ouais, ça ne me satisfaisait pas du tout l'hétérosexualité. Et donc d'abord, j'ai plus été avec les hommes. Et après, bah, j'ai eu des petits trucs en soirée avec des femmes. Et puis après, je suis tombée amoureuse de ma meilleure amie. Et voilà. Et c'est au moment où je suis tombée amoureuse d'elle que j'étais amoureuse d'elle. Que je me suis dit là c'est ça, je pourrais jamais ressentir ça pour un homme. Et du coup j'étais, et en fait je le savais, alors que, et bon, elle m'a refoulée et ça n'a pas marché, mais en fait j'avais pas d'attraction, je suis pas attirée sexuellement par elle, bah, c'était de la lesbophobie intériorisée, hein, mais je me voyais pas du tout l'embrasser ou quoi, c'était pas un désir un désir sexuel, mais c'était vraiment Un jour, je me suis rendu compte, je sais plus, enfin, elle me manquait, ou genre, parce qu'on traînait tout le temps ensemble, enfin, on faisait tout comme un couple en fait, mais sauf s'embrasser, du coup, sauf être physique. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je l'aime, je suis amoureuse d'elle. Et après, là, je me suis dit, ok, bah, c'est ce sentiment-là que je veux avoir. Et même si ça a pas fonctionné avec elle, du coup, j'étais, alors, bah, ça a changé ma vie, en fait, là, de ce que je ressens pour elle. Enfin, c'est quelque chose qui est magnifique et que je peux ressentir pour... que je ressentirais... Enfin, je savais, en fait, que j'allais ressentir ça pour une femme, parce que c'était vraiment... Genre, c'était trop beau, c'était magnifique. Du coup, c'était trop bien.
Et justement, la réalisation de que tu avais des sentiments amoureux pour elle, c'est venu comment? Comment tu as compris ça?
Ben, j'avais, en fait, il y avait eu un petit truc avec une autre meuf juste avant, ou genre dans les mois qui précédaient cette réalisation, où petit à petit, en fait, je me disais, ok, c'est différent avec les femmes, ça a rien à voir de ce que je connais avec les hommes, et d'un côté, ça me fait peur, d'un côté, je connais rien, et je me demande si vraiment est-ce que c'est pour moi et tout, mais d'un autre côté, en fait, j'étais amenée à rencontrer de plus en plus de lesbiennes. Et d'avoir des histoires, et c'était pas pour rien, c'était, j'attirais ça vers moi, en fait, parce que j'en avais envie, quoi. Et du coup, il y a eu ce truc avec cette autre femme où je lui plaisais, et ça me plaisait que je lui plaisais, et elle me plaisait aussi un peu, mais du coup, de réaliser ça, ça a pris aussi un petit moment où je me suis dit, ok, mais en fait, à un moment, elle m'a dit un truc, qu'elle allait voir un mec, et j'ai eu ce petit truc à l'intérieur où je me suis dit, ah, mais ça me déplaît qu'elle me dise ça. Pourquoi ça me fait cet effet-là? Et c'est que je tiens à elle plus que une simple amitié, quoi. Et du coup, elle est venue rester chez moi un week-end. Elle a dormi, on a dormi dans le même lit. Et j'ai fait des énormes insomnies. Et je rêvais qu'on était ensemble, que je lui déclarais ma flamme et tout. Et j'arrivais pas du tout à dormir, et du coup, en fait, ça, c'était aussi hyper dramatique, parce que elle avait une copine à ce moment-là, et du coup, enfin, on était juste potes, on pouvait pas être plus que ça, et sauf que moi, je pouvais pas, en fait, être juste sa pote. Donc le matin, je me suis réveillée, et puis je lui ai dit, enfin, elle s'est réveillée, je lui ai dit, je suis désolée, mais je peux pas continuer comme ça, ça me fait trop du mal d'être simplement ta pote, je veux plus. Et du coup, donc j'avais l'impression d'avoir le cœur un peu brisé, mais c'était pas vraiment de l'amour que j'avais pour elle, mais j'avais une attraction, enfin j'avais envie de plus. Et après, je suis allée voir ma meilleure pote pour me consoler, quoi, et elle me faisait un petit peu de la jalousie, mais pas vraiment explicitement. En fait, j'ai complètement oublié l'autre meuf, quoi, et j'étais là, mais en fait, je suis trop bien avec elle, et c'est avec elle que je vais passer le reste de ma vie, et je me sens tellement, tellement bien avec elle. Et après, en fait, c'est là que j'ai eu cette réalisation. Je me dis, mais en fait, on est amoureuse. Enfin, moi, je suis amoureuse d'elle. Et c'est pas... Enfin, clairement, dans ma théorie, c'était réciproque, parce que je pouvais pas ressentir autant de fusion avec elle pour que ce soit que d'un côté. Mais bon, ça, c'est... On verra plus loin dans l'histoire. De ma vie.
Ça marche. Et est-ce que tu veux bien nous raconter une histoire d'amour, s'il te plaît, du coup?
Ouais, bah du coup, celle-là là que je lis, c'est trop bien. Ça a commencé du coup cet été, donc c'était il y a 6 mois, 7 presque. C'était magnifique, parce que moi, je sortais de rupture. Ça faisait un mois que j'avais rompu avec mon ex, ou deux, je ne sais plus. On s'est rencontrés à une rencontre lesbienne et féministe. J'avais pas forcément envie de... Bon, c'était juste... Bon, on s'est rencontrés, on ne sait plus, voilà, c'était chouette. Et après, elle est venue me voir. Elle habitait en Allemagne, et moi, j'habitais à Bordeaux, en France. Et elle est venue me voir deux fois. Dès qu'elle avait des vacances, en fait, elle est venue me voir. Et je me suis dit, oh, c'est cool, mais je ne vais pas faire de la distance. Enfin, c'est pas pour moi, j'ai pas envie. Je lui ai dit directement dès le début et tout. On a essayé de pas faire ça, mais on se parlait quand même tous les jours, on s'appelait pendant une heure tous les jours, donc c'était bien, c'était intense. Et au bout de la deuxième fois où elle est venue, en fait, on s'est dit que autant tenter, parce que si ça marchera pas, parce que ça, on avisera, mais autant tenter, Et puis moi, vu que j'avais peut-être des projets de partir, enfin, j'en savais rien. Et après, je suis allée la voir en Allemagne et je me suis dit, oh, c'est génial, j'ai envie de venir et tout. Et du coup, voilà, 3 mois après, j'ai emménagé en Allemagne avec elle et là, on habite ensemble. Et ouais, c'est incroyable. Mais c'est surtout incroyable parce que elle me fait sentir trop, trop bien. Aussi par rapport à l'amour qu'elle me donne, aussi physiquement, parce que c'était compliqué en sortant de l'hétérosexualité, il y avait quand même plein de traumas de faire du sexe avec des hommes. Et en fait, vu que c'était tout ce que je connaissais, j'avais tout à reconstruire, le désir de connaître mon corps, qu'est-ce que j'ai envie, comment ça fonctionne pour moi et qu'est-ce que j'ai envie. Ouais, c'était hyper long quand même, c'était hyper long parce que même si il y a 4 ans que du coup j'étais amoureuse de ma meilleure amie et que je me suis dit ok, je suis lesbienne et voilà. Et ben, c'était quand même compliqué physiquement, sexuellement, c'était compliqué de me sentir épanouie. Et là, dans cette relation là avec Marie, c'est ce qui est incroyable, c'est que en fait, c'est ça, c'est qu'on veut, en tout cas, on veut la même chose. Je pense qu'on veut la même chose. Ce qu'on veut que l'amour ça ressemble quand on fait l'amour, c'est pareil. Et du coup, ça aide tellement. Et ça fait tellement du bien. Oh, ça fait tellement du bien parce que c'est tellement stressant et épuisant de pas être sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Et ça ramène du stress. Et du coup, là, c'est tellement magique parce que c'est juste de la tendresse. Et c'est trop bien parce que c'est ce que je voulais depuis trop longtemps. Et j'étais même pas sûre que c'était possible, en fait. Du coup, et là, en fait, elle l'a rendu possible et je me dis, mais waouh! Je me dis, c'est incroyable, je ne pensais pas que. Enfin, tu vois, c'est inimaginable, c'est trop beau. Mais c'est le lesbianisme, tout simplement.
C'est tout, est-ce que tu as envie de rajouter des trucs?
Non, c'est trop drôle parce que je me dis, si tu parles aux gens les différentes fois, à chaque, genre avec les différentes années, ça va changer complètement la réponse qu'elles auront, les gens, tu vois, c'est trop bien. Mais je rajoute que j'adore ce que vous faites, votre travail, c'est incroyable, merci beaucoup, c'est trop trop chouette et ouais, j'adore les lesbiennes.
Les lesbiennes t'adorent aussi, Anna.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission des Lesbiennes à l'antenne.
Écrivez-nous vos vœux, vos questions, vos histoires, vos poèmes à l'adresse lesbiennesalantenne@protonmail.com ou sur les réseaux.
On se retrouve dans 2 mois et d'ici là...
Que la force lesbienne soit avec toi!
Solitaire, Jimmy s'affaire à s'affirmer pas à pas, même si tout ça est à ras sans parfum.